Merci pour votre accueil. Je vais en profiter. Vous entendez que ma voix est un peu voilée, mais je vais essayer de parler lentement pour que vous entendiez tout ce que j'ai à vous dire. Le texte qui va servir pour la méditation ce matin se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 18, à partir du verset 35 et jusqu'au verset 43. Je répète, Luc 18, 35 à 43. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin. Il mendiait. Il entendit la foule passer et demanda ce que c'était. On lui annonça que Jésus de Nazareth passait. Et il s'écria, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Ceux qui marchaient en avant lui faisaient des reproches pour le faire taire, mais il criait d'autant plus, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et ordonna de le lui amener, et quand il se fut approché, il lui demanda, « Que veux-tu que je te fasse ?» Il répondit, « Seigneur, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. » À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple, en voyant cela, rendit louange à Dieu. Voici un texte tout simple que les plus âgés d'entre nous connaissent par cœur, ils l'ont entendu moult fois. Et à partir de ce texte tout simple, je pourrais vous raconter une histoire, non pas une de ces histoires qui sont destinées à rendre les enfants plus calmes avant qu'ils s'endorment, ce n'est pas le lieu ni le moment, mais une histoire pour adultes. Une histoire pour des gens sérieux, une histoire pour vous et moi. Et cette histoire commencerait comme cela. Je pense à un humoriste d'il y a quelques années, Coluche, qui commençait toutes ces histoires avec « C'est l'histoire d'un mec ». Je vois qu'il y en a qui connaissent. Là, c'est l'histoire d'un homme que la vie n'a pas gâté. Luc nous rappelle les événements, il nous dit que cet homme est devenu aveugle. Il ne dit pas quand ni comment cela lui est arrivé, est-ce la maladie, est-ce un accident, on n'en sait rien. Mais il est aveugle. Tout simplement, il ne peut pas voir ce qui l'entoure. Il ne peut pas profiter du spectacle de la nature, du visage des enfants, des plus âgés. Il ne peut pas profiter des couchers de soleil, il ne peut pas profiter des yeux de la personne qui lui parle. Il est plongé dans l'obscurité. La Bible, Ancien et Nouveau Testament, dirait qu'il est plongé dans la ténèbre, les ténèbres. Il est aveugle. Il a besoin des autres pour se déplacer. Il est aveugle, il ne peut pas gagner sa vie, ni pour lui, ni pour les siens. Handicapé, dépendant, il est, et il le sent, un poids pour ceux qui l'entourent. Aveugle, il est pauvre. D'ailleurs, vous l'avez noté, c'est certainement sa famille qui l'a placé là, au bord de la route la plus fréquentée, à la sortie du village, pour qu'il demande l'aumône aux passants. Aveugle, il est mendiant. Notre aveugle est donc un malheureux. Tout ce qui fait la dignité d'un homme, à cette époque comme de nos jours, ce n'est plus pour lui. Sa dignité, il l'a perdue. Il a tout perdu. Si l'histoire s'arrêtait là, je ne vous l'aurais pas raconté comme cela. Mais, vous l'avez noté, dans son malheur, la chance vient à la rencontre de notre mendiant. Sur la route, un groupe d'hommes et de femmes passe. Vont-ils lui donner un peu d'argent ? Notre homme se prépare à demander ce qui lui manque quand il apprend qu'il s'agit de Jésus, Jésus de Nazareth, le nom de quelqu'un dont il a peut-être entendu parler. Certains disent de lui que c'est un prophète, d'autres qu'il est capable de guérir certaines maladies, d'autres encore qu'il parle de Dieu simplement, mais avec des mots qui claquent, des mots différents de ceux qu'on entend dans la synagogue. Alors il tente sa chance et il crie le plus fort possible « Jésus, viens à mon aide !» La prière du désespoir. Que demande-t-il ? De l'aide, simplement. « Viens à mon aide !» Notez qu'il ajoute « Fils de David !» Quelques-uns dans le groupe qui marchent sur la route tentent de le faire taire. On ne va quand même pas s'arrêter pour cet homme. On a mieux à faire. On va à Jérusalem. Et certains le pressentent, certains l'espèrent. C'est peut-être là, enfin, que Jésus va être reconnu comme le roi d'Israël, ce roi qu'on attend depuis des siècles et des siècles et des siècles, depuis la disparition de David. On ne va pas s'embêter à cause d'un mendiant. Si on devait s'arrêter pour tous les mendiants du monde, on n'avancerait pas, n'est-ce pas ? Oui, oui, mais voilà, Jésus a entendu le cri du mendiant. Il s'arrête et il demande qu'on lui amène le mendiant. Aidez-le, il ne peut pas se déplacer seul. Et alors Jésus questionne l'homme, « Que veux-tu ? » Ce qu'il veut, retrouver sa dignité d'autrefois, être guéri, libéré de sa cécité. C'est simple, non ? Simple, peut-être pas tant que ça, mais l'histoire que nous raconte Luc nous dit que le résultat est extraordinaire. Notre homme voit, enfin. Mais Luc nous dit encore autre chose. Il nous dit qu'il se met à marcher sur la route avec les autres pour suivre Jésus. Et Luc rajoute encore que notre homme remercie Dieu pour sa guérison. Et Luc rajoute encore que tous se mettent à louer Dieu. Et oui, il peut remercier, il était aveugle, maintenant il voit, il était immobilisé, maintenant il marche, il était dépendant, maintenant c'est lui qui décide tout seul de ce qu'il veut faire. Il n'était plus vraiment un homme, et maintenant le voilà retrouvant sa dignité, d'enfant de Dieu. Une belle histoire, vous ne trouvez pas ? Une belle histoire, mais le texte va un peu plus loin. Il nous parle de Jésus. Il nous parle de l'Église. Il nous parle de notre monde. Jésus. L'aveugle, en glorifiant Dieu, a-t-il compris que Jésus était l'envoyé de Dieu ? Le sait-il ? Peut-être même pas. Mais Luc, lui, qui s'adresse à nous aujourd'hui, n'hésite pas à nous faire comprendre que Jésus est celui que les prophètes annonçaient depuis longtemps. Vous connaissez Ésaïe ? Il en a dit des choses sur Jésus, longtemps à l'avance. Écoutez, au chapitre 42 d'Ésaïe, « Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissaient pas. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et le sol accidenté en terrain plat. Jésus s'est révélé comme le serviteur. Jésus s'est révélé comme le Messie qu'Israël attend depuis si longtemps. Et notre homme, notre aveugle, le sent. Le sait-il ? Il le sent. Il glorifie Dieu, le Père de Jésus. Et oui, il nous faut parler maintenant de l'Église. L'Église n'est-elle pas en quelque sorte figurée par ce groupe d'hommes et de femmes qui marchent avec Jésus ? Des disciples. Des disciples à quel degré, je ne sais pas. Je sais simplement une seule chose, c'est que peut-être un peu comme nous, ce sont des disciples qui ne comprennent pas tout. Mais ils sont là, comme nous ici ce matin. Ils sont comme un concentré d'église. Premièrement, ils marchent. C'est peut-être ça la première information sur l'église. Ils ne sont pas immobiles. Ils n'ont pas le choix d'ailleurs, puisque Jésus lui-même marche. S'ils veulent être ses disciples, il leur faut avancer avec lui. Parce qu'un disciple n'est pas quelqu'un qui a obtenu un diplôme, qui a obtenu un statut, qui a un brevet, une fois pour toutes, non. C'est quelqu'un qui avance vers la réalisation de ce qu'il espère. Dans nos textes, on appelle ça le royaume. Et cela, frères et sœurs, n'est possible qu'en suivant Jésus, qui ici marche vers Jérusalem, où il ne sera pas couronné roi d'Israël, mais où il rencontrera la croix et où il sera ressuscité. Là où tout sera enfin accompli. Deuxièmement, ses disciples, oh, j'aime beaucoup, ils sont dehors. Vous avez entendu, dehors, ils pourraient être chez eux, auprès de la cheminée ou devant le poste de télévision, même pour suivre une émission religieuse. Ils pourraient être dans une chambre haute. On nous raconte que ça leur est arrivé. Ils pourraient être dans la synagogue. Eh bien, frères et sœurs, non. On nous dit ici que Jésus les emmène dehors, dans le grand air, dans le vent du monde. Peut-être nous faut-il entendre qu'après ce culte, tout va continuer dehors. En tout cas, ne croyons surtout pas que ce culte suffit pour faire de nous de bons disciples. Notre culte ce matin, comme tous les dimanches, c'est un point d'étape, un point de ressourcement, un point de tout ce que vous voulez, de rassemblement de la communauté, et c'est bien. Mais c'est seulement une étape. La vie de l'Église est peut-être plus dehors que dedans. J'aime aussi que cette troupe d'hommes et de femmes, de disciples, parle. Étonnant. Vous regarderez votre texte, ça ne se voit pas. Non, ça ne se voit pas. Mais la troupe fait suffisamment de bruit pour que le mendiant qui ne voit rien les entende. Et c'est comme cela qu'il apprend la présence de Jésus. Petite parenthèse. Je sais que je vais parler à beaucoup de personnes parmi nous. Cette marche n'a rien à voir avec nos petites randonnées du samedi matin ou du jeudi soir, où l'on parle très fort de tout et de rien. Ici, c'est de Jésus que l'on parle. C'est lui qu'on écoute. Et ce bruit-là permet à un aveugle de savoir que Jésus passe là devant. J'aime bien, quatrième point, que cette troupe d'hommes et de femmes obéissent. Vous avez noté, Jésus leur demande de faire venir l'aveugle. Vous l'avez noté aussi, ça n'est pas si simple. Leur première réaction a été de rejeter cet homme qui vient ralentir la bonne marche du groupe. Mais Il leur faut apprendre à accueillir celui ou celle qui demande de l'aide à Jésus. Savons-nous accueillir comme il le faudrait? Encore une question sur ce que nous sommes en Église. Dans cette histoire, ils doivent comprendre que c'est Jésus qu'on appelle à l'aide, pas eux. Ils ne sont que des aides, des intermédiaires, de simples serviteurs. Ils avancent, ils sont dehors, ils parlent, ils obéissent à leur Seigneur, l'Église. Et puis, on parle de notre monde. Là aussi, ça ne se voit pas directement. Serez-vous choqués si je vous dis que notre monde est un monde d'aveugles? Ah, il y a des gens qui croient voir, c'est clair. Que regarde-t-il? Que voit-il? Je n'en sais rien. Mais je ne pense pas que ce soit choquant de dire cela. Être aveugle, c'est ne pas voir la réalité. C'est faire, dans notre monde, comme si tout allait bien, ou pas si mal que ça. C'est se persuader qu'il n'y a pas trop de problèmes, qu'il n'y en a pas. Et pourtant, prenez 5 minutes tout à l'heure pour lire la une de votre Midi Libre, si vous l'achetez, ou pour écouter le tout début du journal télévisé. Ouvrez vos yeux et vos oreilles. Vous ne verrez que mensonges, sauvagerie, guerre, exploitation, dégradation de la création. Et vous comprendrez pourquoi ils sont peu nombreux, ceux qui envisagent un avenir réjouissant. Ceux qui sont comme l'aveugle de notre histoire, au bord de la route, attendant peut-être quelque chose. Oui, parce que parmi les aveugles du monde, il y en a heureusement quelques-uns, comme le nôtre aujourd'hui, qui demandent autre chose que ce qu'ils ont l'habitude de regarder passivement. Ils espèrent que derrière les ténèbres du monde, ces ténèbres qui nous environnent, il y a possibilité d'une lumière. Et frères et sœurs, ils ont raison. Il y a une lumière. Et alors, il s'adresse à nous, à l'Église. Surtout, ne les rejetons pas. Surtout, souvenons-nous que nous sommes avec Jésus, cette lumière du monde. Oh, pas toujours bien brillante, mais lumière quand même. C'est notre vocation. Et oui, parole de notre Seigneur, nous sommes lumière du monde. Alors, frères et sœurs, accueillons, témoignons, parlons de ce Jésus qui est le Sauveur du monde. Et c'est lui-même qui leur donnera, comme dans cette histoire, cette lumière qui illumine les vies. Et nos aveugles loueront Dieu, et ceux qui auront vu leur résurrection loueront Dieu eux aussi, et ça sera la fête dans le ciel et sur la terre. Une belle histoire, vous trouvez? Amen.